Bonjour à tous, surtout pour ceux que je n'ai pas vus ce matin au petit déjeuner ou ceux qui arrivent, etc. Donc, je suis content aujourd'hui de vous présenter cette épître aux Colossiens. Donc, pour l'info, c'est la première fois que je parle ici. Hein. Je n'ai jamais eu l'occasion de présenter ici. Et donc, c'est un exercice un peu particulier puisqu'on peut être amené à prêcher dans son église, parler pendant, on va dire, une demi-heure. Et là, donc, c'est plus quelque chose qui ressemble plus à un cours, à un exposé, et sur une durée qui est un peu plus longue, puisqu'on a à peu près une heure pour exposer le sujet, et ensuite une heure pour en discuter. Donc, je vous propose donc aujourd'hui de parler de l'Épître aux Colossiens. Donc, le choix s'est fait par rapport à une discussion au mois d'avril, justement, où j'avais présenté l'Épître à Philémon à l'église de Valence. Et quand on m'a dit, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas parler au bals sur quel sujet? Donc, j'avais fait le choix à ce moment-là de parler de l'Épître aux Colossiens que je voulais étudier après l'Épître à Philémon, puisqu'il y a. Elles sont relativement groupées, elles ont déjà un auteur commun, mais elles correspondent à une époque commune. Et donc, tout un ensemble de choses qui faisaient que j'étais intéressé par cette Épître. Donc, pour vous la présenter ce matin. Donc, je vais vous la présenter suivant un plan assez classique. Je vais parler de façon assez importante du contexte de cette épître. Ensuite, je vais parler de la structure de l'épître, mais pas le contenu de l'épître, mais plutôt de la structure épistolaire, ce qui est propre à la lettre, au style ou à la façon d'écrire cette lettre. Ensuite, qu'est-ce qui a motivé l'apôtre Paul pour écrire cette épître? Ensuite, la structure du message interne de l'épître, parce que l'épître, c'est une forme, mais il y a un message dedans. Et ensuite, je parcourrai les différentes parties que je vous aurai exposées et j'en ferai un bref résumé et quelquefois un peu de focus sur les parties les plus importantes. Alors, par rapport au contexte, s'il arrive... C'est bloqué. Voilà. Alors, par rapport au contexte, donc on situe cette épître en 60-62 après Jésus-Christ, à un moment où l'apôtre Paul est en prison. Donc, il a été arrêté à Jérusalem par ses anciens co-religionnaires. Et ensuite, il a été incarcéré à Césarée pendant 2 ans, pendant les années 58-59. Puis, de par son statut de citoyen romain, il va être envoyé à Rome pour y être jugé, pour comparaître devant l'empereur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant sa venue à Jérusalem, Paul avait séjourné 3 ans à Éphèse. Et ces 3 ans sont importants parce qu'elles permettent de comprendre aussi tous les liens, aussi toute la motivation que Paul avait pour ces églises-là. Parce que pendant ces 3 ans, bon, il y a eu la création de l'église d'Éphèse, il y avait une école biblique, une école dite de Tyrannus, et on peut imaginer que voilà, dans cette école biblique, plusieurs personnes y sont passées, ont été formées, notamment Epaphras, qui après va créer l'église de Colosse. Donc on y reviendra sur Epaphras, qui est quand même mentionné plusieurs fois dans cette épître. On peut imaginer peut-être aussi Philémon, c'est dans sa maison que l'église de Colosse se réunissait. On peut imaginer Archippe, on peut imaginer également d'autres personnes qui se sont formées dans cette église, dans cette école. On voit que cette école a rayonné dans toute la province. On nous mentionne différentes églises. Donc il y a Éphèse, il y a Colosse, on nous mentionne Laodicée, on nous mentionne Hiérapolis. Donc on verra après, il y a une petite carte qui donne un peu la situation géographique, mais on voit que c'est une région à part entière, et donc on voit cette école qui a sûrement dû rayonner et influencer les différentes églises, et peut-être même faire que des personnes ont créé les églises là où il n'y en avait pas. Et donc, c'est voilà, un peu ces différentes églises. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans une époque qui peut ressembler sur certains aspects à ce qu'on voit aujourd'hui chez nous, parce qu'on voit des mouvements d'églises, on voit des églises se créer dans certaines régions. Ça ressemble beaucoup à un mouvement d'église avec une école biblique, des églises qui se créent par SMH, par évangélisation. Et donc, on est, je trouve, dans une situation assez similaire à ce qu'on peut encore voir maintenant dans nos mouvements d'église. Alors ensuite, il y a 3 lettres qu'on regroupe. Il y a la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens est la lettre à Philémon. Alors quand on regarde, sans rentrer trop dans les détails, la lettre aux Éphésiens est une lettre assez générale. Il est fait très peu mention de personnes, alors que Paul avait séjourné pendant 3 ans à Éphèse, donc on peut imaginer qu'il connaissait beaucoup de gens. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il en parle un peu plus ou qu'il envoie plein de salutations à toutes les personnes qu'il connaissait. Et en fait, non, cette lettre est beaucoup plus limitée en termes de personnes. Donc on peut peut-être en déduire que cette lettre, du coup, avait un rayonnement, un aspect, une vocation à être vraiment lue dans toute la région. Et c'est pour ça qu'il ne la rend pas trop personnelle. Ensuite, on a cette lettre aux Colossiens. Donc là, on y reviendra. Il y a quelques difficultés qui sont derrière cette église, ce qui fait que cette lettre va avoir un côté un peu plus personnel, entre guillemets, un peu plus ciblé sur l'église de Colosse, voire Laodicée et Hierapolis. Et après, on a cette troisième lettre à Philémon, une lettre vraiment personnelle, puisque là, il va écrire à une personne. Et il va la faire envoyer par Onésime, sachant que le sujet de cette lettre est un problème entre Philémon et Onésime, un problème entre le maître et l'esclave. Et donc là, on va rentrer dans une lettre tout à fait personnelle et le règlement d'un conflit tout à fait personnel. Ce qui est intéressant dans ces trois lettres, c'est qu'on a beaucoup de cohérence. Il y a entre la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Colossiens, souvent les gens qui font de l'analyse et de la critique textuelle, justement, ont reproché que ces deux lettres étaient tellement similaires qu'ils en ont même imaginé qu'il y en avait une des deux qui devait être fausse, voire les deux, et qu'il y avait peut-être une lettre plus ancienne. Mais moi, je préfère y voir une lettre plus générale, plus, entre guillemets, universelle, une lettre plus spécifique, et de voir la cohérence entre les deux. Et du coup, ne pas s'en méfier, mais plutôt d'y voir quelque chose d'encourageant. Celle de Philémon, j'en parlerai aussi un petit peu, on voit que le thème de l'esclavage est un thème qui se retrouve dans les différentes épîtres et on voit qu'il est exactement en cohérence avec l'enseignement qu'on y voit. Un dernier point par rapport au contexte, il faut savoir que la ville de Colosse a été détruite très peu de temps après, donc il y a deux dates qui circulent, il y a l'an 64 ou l'an 60, donc c'est vrai que ceux qui pensent que c'est l'an 60, du coup, ils ne disent pas que la lettre a été écrite en 60-62. Mais il y a là également la date de 64 qui fait que cette ville va être détruite par un tremblement de terre, et ce qui peut expliquer qu'après on n'en parle plus du tout. Donc elle va se recréer, cette ville, elle ne va pas complètement disparaître, mais elle ne va pas redevenir la ville importante qu'elle était auparavant. Donc ça permet également, c'est un élément de datation par rapport à la lettre. Un deuxième élément de contexte, alors là c'est plus une curiosité, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ce site qui est mis en ligne par une université américaine qui permet d'évaluer les trajets à l'époque de l'Antiquité. Donc vous lui mettez une ville d'origine, vous lui mettez une ville de destination, vous avez plein de paramètres, si vous voulez que ça soit par bateau, par terre, si vous voulez le moins cher, le plus cher, etc. Et c'est assez intéressant parce que donc c'est pas spécialement chrétien, il y a peut-être des chrétiens derrière, mais en tout cas c'est mis en ligne de façon complètement laïque, et ça reprend tout un ensemble de bases de données. Alors je me suis, entre guillemets, amusé à voir ce qu'on avait pour cette distance Rome-Colosse. Alors déjà, premier problème, Colosse n'était pas dans la liste des villes, donc j'ai mis la Odyssée qui est un petit peu à côté, on va dire. Et donc j'ai regardé 3 types de trajets. Donc, en fonction de ce qu'offrait l'outil. Donc, un trajet, on va dire, le plus naturel qui était par cabotage. Donc là, les gens suivaient la côte pour y aller. Donc, prenaient le bateau, mais suivaient la côte. Et donc, on voit qu'ils sont sur la côte adriatique. Après, ils passent en Grèce et après, ils traversent. Et ils arrivent à... Donc, Colosse. Je ne sais pas si vous voyez, tout au fond, en bas à droite, il y a l'Odyssée. Donc, il y a un petit peu. Donc, oui, là, on a l'Odyssée, donc c'est à peu près au même endroit. C'est à 200 km à l'est d'Éphèse. Donc, ça, c'est le chemin, on va dire, le plus habituel. Il y a un chemin plus dangereux et un peu plus rapide qui est par la mer. Donc, là, les gens partaient de Rome, allaient en Sicile et rejoignaient la Grèce. Et retrouver sur le même. Rejoignez le même. Alors, ça, c'est un trajet un peu plus dangereux parce qu'on allait en pleine mer. Donc, ces trajets-là, on a 21,4 jours et 24,4 jours pour les faire. Donc, quand on voit ça, on se dit, dans les habitudes de l'époque, c'était pas si long parce qu'il y a à peu près 2500 km. Donc, bon, ça donne un peu une idée. Alors après, je vais chercher un trajet uniquement à pied. Donc, c'est par le haut. Et là, on est à 96,4 jours. Donc là, ça commence à prendre un peu plus de temps. Mais encore une fois, on est à l'Antiquité, on est à l'époque de l'Antiquité, on n'est pas à notre époque. Donc l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même. Et alors pourquoi j'ai regardé ça? Parce que je me souvenais que dans l'épître à Philémon, les gens affirmaient soit c'était trop près, trop loin, trop court, ça prenait trop de temps. Et c'était souvent la base du raisonnement. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché un peu ce type d'informations pour savoir clairement finalement si ça prenait tant de temps que ça. Et voilà, si on part sur une base d'une vingtaine de jours, on va dire ça fait un mois à peu près, ça devient assez accessible. Ça prenait du temps, mais c'était encore tout à fait faisable. Alors, le seul élément que je n'ai pas trouvé dans ces trajets-là, c'est pour ça que j'en ai fait trois, c'est qu'on n'a pas toutes les indications de qui pouvait prendre quel chemin. Donc j'ai pris par exemple l'exemple d'Onésime, dans le cadre de l'épître à Philémon. Onésime était un esclave en fuite. Est-ce qu'il pouvait prendre l'un ou l'autre de ces trajets, ou est-ce qu'il valait mieux qu'il prenne le trajet par terre, uniquement par terre, parce qu'il était peut-être moins contrôlé que s'il prenait un trajet par... Ça, on n'a pas cette information-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un moyen. Et donc, si vous vous posez des questions, c'est un très très bon site à utiliser pour reprendre pour avoir une idée de ces distances et de ces itinéraires également. Donc là, voilà à peu près au niveau du contexte, ce qu'on peut dire au niveau des Colossiens. Et donc, comme je l'ai dit, ça, pour moi, c'est assez proche de ce que l'on peut voir dans nos mouvements d'église. On voit Paul avec, en quelque sorte, son mouvement d'église, ses églises où il est connu. Ces églises de Colosse, Hierapolis, Laodicée, on pense qu'il n'y a jamais mis les pieds. Donc c'est intéressant, il s'adresse à des églises qui le connaissent au travers d'autres personnes. Donc il a autorité, il est quelqu'un qui était renommé au niveau de sa connaissance, de son évangélisation. Mais voilà, il a aussi à cœur ces églises qui ont été créées par des personnes qu'il a formées lui-même dans ce petit périmètre. Alors, si on en arrive maintenant à la structure, on va dire, épistolaire de l'épître, donc les caractéristiques propres de la lettre. Donc, on voit que Paul, on pourrait dire comme à son habitude, rédige cette épître en respectant les conventions des épîtres de l'époque. Donc, on va retrouver une adresse, une salutation initiale, avec une spécificité, c'est qu'elle est coécrite par Timothée. On va trouver naturellement à la fin différentes salutations finales. Donc là, on va voir la mention de différents personnages, hein, de Aristarque, Marc, Justus, Luc, Démas et Archip. On a une authentification épistolaire, donc c'est là où Paul précise que voilà, il signe de sa main cette lettre. Et ça, c'était une habitude à l'époque de faire écrire ces lettres par des secrétaires, par des personnes qui l'écrivaient, et puis rajouter un petit mot à la fin en disant que voilà, il confirmait le fait que cette lettre venait de lui. Donc le secrétaire, c'était peut-être Timothée, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas exactement pourquoi il mentionne Timothée. Si c'est parce qu'elle a été écrite avec lui, ou est-ce que parce que Paul est peut-être en train de passer le relais et en train de mettre en avant Timothée auprès de ses églises en disant, voilà, Timothée est avec moi, Timothée a le même poids que moi et c'est quelqu'un qui peut-être dans le futur viendra vous visiter. Et une partie particulière, c'est l'action de grâce. Alors l'action de grâce, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était quelque chose qui appartenait aux épîtres dans l'Antiquité, pas uniquement aux épîtres chrétiennes. On trouve trace d'action de grâce dans des épîtres païennes, dans lequel les gens remerciaient le ou leur Dieu pour telle ou telle chose. Donc l'action de grâce fait partie, on peut voir ça comme faisant vraiment partie du style de la lettre, et pas vraiment du message, ou pas complètement du message interne. Alors ensuite, par rapport, alors j'ai parlé, Séverine m'a dit, surtout tu dis ce que c'est que la parénèse, parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est presque un gros mot, quoi. Donc la parénèse, ça va correspondre au message propre de l'épître. Donc c'est le contenu, on va dire, corps pour lequel l'apôtre a écrit la lettre. Donc c'est le contenu quand on enlève les salutations, l'action de grâce, c'est vraiment le corps de l'épître. Si on revient un peu sur l'action de grâce, parce que je n'y reviendrai plus après. Donc on a grosso modo une phrase en grec, hein, c'est vraiment un bloc. Elle a un caractère très, très trinitaire, hein, cette action de grâce. On le voit, alors j'avais noté deux éléments, le verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a le Père, le Fils, bien affirmé. Et dans le verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc on a vraiment cet enracinement déjà trinitaire dans l'action de grâce qui est importante. Et on voit que cette action de grâce, elle est motivée parce que Paul a entendu des Colossiens au travers d'Épaphras. Donc Épaphras, qu'il a sûrement formé à Éphèse, qui a créé cette église, et à ce moment-là, à Rome, avec l'apôtre Paul. Peut-être simplement, on peut lire que les emprisonnements à l'époque, ce n'était pas comme un emprisonnement aujourd'hui en quartier de haute sécurité, tout fermé, non. C'était une forme, ils étaient en quelque sorte assignés à résidence à un endroit, mais ils avaient beaucoup de liberté dans le fait que des gens pouvaient venir les voir, ils pouvaient discuter, les gens leur apportaient de la nourriture à manger. Il y avait quelque chose d'assez, je dirais pas cool, mais ce n'était pas un emprisonnement avec un isolement total. C'était quand même un emprisonnement où il y avait beaucoup de relations, comme on le voit au travers de cet épître, et des relations qu'il avait avec les uns et les autres. Un autre point qui m'a beaucoup parlé, on y reviendra, c'est la notion d'évangile, de bonne nouvelle qui est parvenue aux Colossiens. Alors dans le verset 6, « Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. » Et en étudiant cette épître, j'ai surtout accroché comme elle porte du fruit, et on y reviendra. Le fait de porter du fruit est quelque chose d'important dans cette épître, et on le voit à ce niveau-là. La bonne nouvelle, l'évangile est porteuse de fruits. Alors ensuite, on passe sur une partie un peu plus technique. C'est quelles sont les motivations de l'apôtre Paul pour écrire cette épître. Donc on l'a vu, c'est Épaphras qui a peut-être créé l'église de Colosse, qui est venu à Rome, qui a donné des informations à Paul. Et donc, on peut imaginer tout à fait qu'il lui dit, bon, ben voilà, à Colosse, voilà ce qui se passe, à Laodicée, voilà ce qui se passe, à Hierapolis, voilà ce qui se passe. Et voilà, Paul fait une analyse et voit un peu ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, l'épître nous montre un ensemble d'allusions qui montrent qu'il y a des petites choses qui clochent. Quoi. Il y a des petits... Régulièrement, il y a... Paul va faire des remises en garde ou des remises en question par rapport à des points, comme s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors il le fait, bon, comme on le voit hein, quelquefois chez Paul, hein, c'est quelqu'un de très direct, mais il sait, de façon assez pédagogique, amener les problèmes. Alors on a une première mention dans le verset 23 du chapitre 20. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Le si vraiment va suivre une démonstration et il va dire aux Colossiens, attention, ça c'est seulement valable si vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance. Donc on voit qu'il y a quelque chose où il met un si. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas si claires que ça pour les Colossiens. Donc ça, c'est une première allusion assez, on va dire, assez discrète dans le passage, dans l'épître. Ensuite, il va aller sur des remarques un peu plus précises. Donc j'en ai relevé une au chapitre 2, le verset 4. « Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. » Donc on voit que manifestement, bon, il y a des gens qui étaient un peu derrière l'Église et qui essayait peut-être d'influencer, d'apporter des éclairages différents. Et voilà, Paul va réagir et va essayer de corriger à peu près les choses. Alors ensuite, la grande partie qui amène justement le plus de mentions par rapport aux problèmes qu'il pouvait y avoir à Colosse, on va les retrouver dans le chapitre 2, entre les versets 8 et 23. Donc là, on a tout un ensemble d'éléments qui nous sont apportés. Déjà, le verset 8, bien connu dans Colossiens, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon Christ. » Donc on voit qu'il voilà, il y a des gens extérieurs, parce que quand il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous », on voit bien qu'il y a le « vous », ce sont les Colossiens. Donc il y a des gens qui ne sont pas des Colossiens qui essayent d'influencer l'Église. On voit la référence à la philosophie, à la tradition des humains, les éléments du monde. Et donc, voilà un ensemble. Bon, il y a d'autres éléments qui nous montrent qu'il y a des difficultés, il y a des choses que l'apôtre remet en question et qu'il voit comme défaut chez les Colossiens. Et là, donc, il y a deux origines à ces problèmes-là qu'on peut déceler. Alors un premier qui vient, donc je l'ai indiqué par rapport à différents thèmes qui sont mentionnés, la notion de philosophie, de mystère, de plénitude, de connaissance. Donc ça, ces mots-là étaient des mots qui étaient associés aux religions, à mystère, aux religions qui étaient dans l'environnement à l'époque. Donc on peut aisément imaginer des gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient d'un monde païen, qui se convertissaient, mais qui avaient tout cet héritage en tête. Et donc, le fait d'utiliser ces mots-là, voilà, fait penser que Paul essayait de parler avec les mêmes mots pour amener le fait de devoir se centrer sur Christ. Alors ensuite, bon, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, hein, on parle de toutes les hérésies possibles. Une des difficultés qu'on voit, c'est que bon, les hérésies vont se développer et un peu pas se standardiser, mais bien se définir au IIe siècle. Et on a tendance à vouloir essayer de faire coller les problèmes qu'on peut déceler chez les Colossiens avec l'une ou l'autre des hérésies. En fait, je pense que, oui, il y avait des problèmes. Oui, il y avait des tendances hérétiques globalement. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est telle ou telle hérésie. C'était plutôt un ensemble d'éléments qui, hérétiques naturellement, mais n'appartenaient pas à une hérésie, on va dire, officielle. C'est pour ça qu'on parle, dans ce cas-là, d'une forme de pré-gnosticisme qui donnera le gnosticisme plus tard, qui sera, lui, bien défini et qui va faire appel, justement, à ces notions de connaissance, de mystère, de révélation, particulièrement. Mais il y a également d'autres termes qu'on peut trouver dans l'Épître. C'est des allusions à des pratiques juives. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand vous lisez l'Épître aux Colossiens, mais on voit des aspects de nourriture, des fêtes, du sabbat, on parle de circoncision. Alors, quand on regarde les commentaires, on voit que ce n'est pas du judaïsme pur, hein, c'est des allusions à des éléments de judaïsme, ce qui fait que beaucoup ont pensé qu'il y avait peut-être des sectes juives de tout type aussi derrière. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'au travers du verset 10, quand il dit dans les versets 9 et 10, « Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui qui est la tête de tout principat et toute autorité. » Et pour certains, c'est le verset 9, hein, pas le verset 10, peut-être que justement ces sectes juives ou ces origines juives ne reconnaissaient pas le côté divin de Jésus. Le reconnaissaient peut-être comme Messie, mais peut-être pas allant jusqu'à lui donner la plénitude de la divinité, comme c'est mentionné au verset 9. Donc on voit que par rapport au problème qu'on peut imaginer dans l'Épître, il y a une critique. On voit que ce qui ne va pas, c'est la place de Jésus qui n'est pas donnée par les Colossiens comme elle devrait l'être par rapport à Jésus. Et donc, le rôle de Jésus, pleinement Dieu, le rôle de Jésus comme intermédiaire, comme unique intermédiaire, la relation entre les hommes et Jésus, était quelque chose qui n'était pas apparemment suffisamment clair pour éviter ces petits problèmes d'hérésie. Alors ça, c'est ce qu'on trouve assez habituellement dans les commentaires sur l'Épître aux Colossiens. Après, il y a un autre but qu'on peut trouver. Alors ce but-là, on va le trouver plutôt dans la première partie de ce que j'ai appelé la parenthèse, donc la première partie du message, qui va être une prière d'intercession. Et donc là, on va voir, deux planches plus loin, que dans cette prière, Paul demande quelque chose pour les Colossiens, et que le développement ensuite de ce message va y répondre. Et donc là, on a un autre objectif qui va être accroître dans la connaissance et apporter du fruit. Mais je le développerai un peu plus loin. Alors après, pour ce qui est du message, la structure du message elle-même, donc j'ai essayé de représenter graphiquement les choses. Donc je vais vous l'expliquer parce que je pense que pour l'instant, il n'y a que moi qui le comprends. Je n'ai pas voulu faire un plan avec 1, 2, 3, avec essayer de trouver une démonstration de type plan, mais j'ai plutôt été sensible un peu à tout un ensemble de mouvements qu'on peut entendre au travers du discours. On entend pour moi, ça chante en quelque sorte, il y a des renvois, il y a des parallèles, il y a beaucoup de mouvements. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans cette description. Donc j'ai fait un premier découpage, on le voit, une prière d'intercession en Colossiens 1, les versets 9 à 12. Ensuite, une explication, une démonstration du Fils, image du Dieu invisible. Le combat de l'apôtre, où l'apôtre va dire que voilà, ses souffrances pour l'annonce de l'Évangile. Un passage, Colossiens 2, 6 à 19, où il va montrer que les Colossiens ont tout en Christ. Alors le tout, il est important parce qu'on retrouve ce terme de plénitude qui était propre un peu à ce vocabulaire des religions environnantes, la plénitude. Donc on va voir le Fils, il a tout en Dieu, du moins toute la divinité est dans le Fils. Nous avons tout pleinement en Christ. Ensuite, cette partie-là, qui est une belle démonstration, va rebondir sur une partie que j'ai mis en Colossiens 2, 20 à 3, 4, où on va voir, mais si vous êtes mort, mais si vous êtes ressuscité, alors pourquoi ? Donc on a une démonstration et ça fait écho à quelque chose qui dit, mais voilà, si la démonstration est bonne, pourquoi y a-t-il des problèmes ? Et on arrive à l'homme ancien, à l'homme nouveau, et pour finir, aux applications, c'est-à-dire les comportements, les œuvres qui étaient demandées aux Colossiens. Alors là, j'ai fait une représentation, les choses dans les cieux, les choses sur la terre, donc on verra, c'est en 3, on nous en parle. Mais on voit aussi que dans le mouvement, on va partir très haut, on va partir de Dieu et on va terminer dans l'application très concrète sur terre par les Colossiens. On a aussi tout un mouvement entre Dieu, Jésus et l'homme. On va avoir un mouvement qui va montrer que Jésus et Dieu ne font qu'un, ils ont la même nature. On va aussi voir un mouvement de l'homme vis-à-vis de Jésus, son comportement vis-à-vis de Jésus. Et je vais rajouter même horizontalement le fait qu'on va voir que Jésus n'est pas un simple intermédiaire à qui on s'adresse, mais c'est vraiment quelqu'un en qui on est. Donc il y a une notion de communion, également de nature. Et tout cela, je pense, permet de comprendre comment Paul va répondre à ces problèmes d'hérésie. Et en fait, c'est, au lieu de faire un découpage, il y a la connaissance à très haut niveau, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui essayent d'accéder à cette connaissance et donc il faut qu'il trouve tel ou tel moyen d'y accéder. L'apôtre Paul va garder ces étapes, mais il va surtout montrer que, en quelque sorte, tout est en tout, si je pouvais dire, c'est-à-dire vraiment Dieu et Jésus ne font qu'un avec son esprit, mais également l'homme va s'intégrer dans cet ensemble-là et pas simplement s'adresser à cet ensemble-là. Il est dedans, il est en Christ. Donc voilà, j'espère que ça ne vous fait pas trop peur comme schéma, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à le projeter, on va dire, de mon cerveau vers une planche. Donc je vous propose maintenant de regarder ces différentes parties et puis de mettre un peu le focus sur certaines parties. Alors, l'intercession. Alors, l'intercession, la question pour moi, c'était est-ce que je la mettais avec l'action de grâce, parce qu'elle suit l'action de grâce, donc Paul remercie Dieu pour ce qui est fait chez les Colossiens. Mais tout de suite, il y a cette prière. Donc on aurait pu associer la prière en disant « ça va avec l'action de grâce ». Moi, j'ai préféré la sortir et la mettre en introduction du message. Alors, bon, j'ai indiqué quelques éléments. La première chose, c'est que voilà, c'est aussi une prière de l'apôtre Paul pour des gens qu'il ne connaît pas, dont il a entendu parler. Donc, c'est aussi intéressant de prendre ce recul-là et de voir que voilà, Paul n'a jamais vu ces gens-là et voilà le type de prière qu'il fait. Ensuite, donc là, j'ai trouvé intéressant l'approche, si on reprend, alors sans parler de grec spécialement, mais si on reprend une traduction qui est proche du grec et qui rend la notion de conjugaison qui est utilisée dans le grec, nous ne cessons de prier Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur, portant du fruit et croissant, étant fortifiés, rendant grâce au Père. Donc ça, c'est une unique phrase, hein, c'est sur ces trois versets. Et justement, ce qui est intéressant, c'est le verbe conjugué, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et c'est intéressant si on accepte l'idée que le verbe conjugué, c'est celui le plus fort, c'est vraiment la demande de l'apôtre. Paul demande pour les Colossiens qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Alors, connaissance de la volonté. Connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle dans ma traduction. Donc on voit que bon, pour connaître cette volonté, ce n'est pas si simple. Il faut de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Donc on pourrait, alors c'est une façon de l'interpréter, mais de dire connaissance en toute intelligence humaine et intelligence spirituelle. C'est-à-dire quelque chose qui fait appel à notre capacité de comprendre, à notre capacité d'apprendre, de progresser, mais également à utiliser tout ce qui est discernement spirituel également dans cette notion de connaissance. Donc ça, c'est le verbe qui donne vraiment le but. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce but, c'est pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur. Ce n'est pas une connaissance académique où on reçoit, on apprend, on apprend, on apprend, c'est tout. Ce n'est pas seulement ça, c'est pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur. Et comment? Les adjectifs qui vont avec. Portant du fruit et croissant dans la connaissance. Connaissance, là, plus connaissance de Dieu. Et le portant du fruit, c'est. On l'a vu dans l'action de grâce. L'évangile est porteur de fruits. Et là, il va le demander, pour moi, ce que je comprends, il va demander que les Colossiens soient remplis de la connaissance pour se conduire d'une manière digne du Seigneur. Et afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes et que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Donc, la demande de l'apôtre est vraiment une croissance dans la connaissance et un comportement avec des fruits, avec pas simplement une connaissance, mais une pratique, et notamment des œuvres et des comportements. Et c'est ce qu'on retrouvera en conclusion de cette partie de message, où Paul va exhorter les Colossiens à avoir un certain nombre de comportements entre eux. Alors ensuite, on passe à une partie un peu différente. Il va rentrer dans sa démonstration, en quelque sorte. Ça va être la première partie de sa démonstration. Donc là, il va parler du Christ. Il va, pour moi, essayer de montrer que le Christ a tout pleinement en Dieu et que le Christ est pleinement Dieu. Et c'est ça qui est important. Et pour ça, il va. Alors, les versets 15 à 20 sont appelés quelquefois un hymne au Fils. Bon, ouais. Il y a une notion d'hymne qui est souvent mentionnée. J'en ai pas trouvé, mais il paraît qu'il y a des Bibles qui le mettent en italique pour rendre cette notion d'hymne. Alors, si c'est en italique, ça ne veut pas dire que c'était dans l'Ancien Testament, mais là, c'est simplement parce que les gens ont décidé qu'il y avait un style un peu différent. Donc, si on le lit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Donc voilà, on appelle ça un hymne, il y a une structure. Donc je l'ai représenté là. On voit un parallèle entre les versets 15 On voit les versets 15 à 16 qui est en parallèle des versets 18 à 20. Bon, ça montre une structure, ça montre voilà, qu'il y a le rapport entre Jésus par rapport à Dieu, Jésus par rapport à l'Église, et donc on voit une symétrie entre les deux. Et donc c'est intéressant parce que on est toujours dans cette notion de plénitude, on a toujours « il faut être tout en tout, Christ est pleinement Dieu », Dieu a tout mis pleinement en Christ, et donc on a vraiment cette association entre les deux qui est très très forte, et le fait qu'on ne peut pas dire que voilà, l'un est le subordonné de l'autre, et c'est ça qui, pour moi, ressort de cette partie-là. À la fin, on termine justement avec ce petit verset que j'avais lu tout à l'heure, « Mais seulement, cela est vrai, seulement si vous demeurez dans la foi fondée et fermement établie. » Donc on voit que c'est après cette démonstration-là, qu'une démonstration tout à fait qu'on connaît, qui est une démonstration intellectuelle, qui elle est bien, mais voilà, il faut quand même demeurer dans la foi pour pouvoir y participer. Alors ensuite, il y a une autre partie. Donc là, je vais simplement remontrer peut-être le plan. Donc voilà, on a fait l'intercession, le fils du image de Dieu invisible, le combat de l'apôtre. Maintenant, on va passer au combat de l'apôtre. Alors pourquoi je l'ai mis de l'autre côté? Parce qu'on a une démonstration, et puis là, on va passer dans un truc très concret, quelque chose d'un peu difficile. D'ailleurs, au début, je n'arrivais pas trop à comprendre pourquoi il y avait cette partie-là dans le texte, parce qu'on aurait pu tout à fait continuer là. Ça ne posait pas de problème. Le combat de l'apôtre. Donc oui, Paul est en prison, il est en prison à Rome, on l'a vu, on en a parlé déjà dans le contexte, et il va présenter son ministère comme un combat. Donc, un combat qui s'accompagne de souffrances, donc il va en parler clairement. Il va rappeler le fait qu'il est serviteur de l'Évangile, qui est dans la partie qui conclut la partie précédente. Paul, qui a été proclamé à toute création sur le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Il va le dire pour l'Église, quand il va entre les versets 24 et 25, quand il va parler du Christ, le corps de Christ qui est l'Église. C'est d'elle que moi, je suis devenu ministre. Donc, Paul également serviteur de l'Église. Et également serviteur des Colossiens, quand il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Alors, dans cette partie-là, l'apôtre, il va réutiliser la notion de mystère qui a été caché. Il va centrer ce mystère sur Christ, et il va reparler également de la connaissance, de la sagesse et de la connaissance dans le verset 3 du chapitre 2. Donc on voit qu'on a toujours cette notion de connaissance qui est un des objectifs de l'apôtre. Alors, peut-être un focus sur un des versets de ce passage, le verset 24, parce que moi, il m'a posé quand même quelques difficultés, je pense que vous le connaissez pour la plupart. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors pourquoi ça accroche un peu? Parce qu'on a l'impression que l'apôtre Paul participe aux détresses de Christ et qu'il ajoute des choses. Voilà. Et donc là, il est clair que, bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais on est tous d'accord pour dire que l'œuvre de Christ est parfaite. L'œuvre de Christ pour le salut de quiconque croit est parfaite, il n'y a rien à rajouter, tout est bien. Et là, la façon de comprendre ce verset, c'est de comprendre plutôt que Paul va, au travers de ses souffrances, au travers de son ministère, non pas rendre complet l'œuvre de Christ, mais va ajouter des éléments, et ces éléments, c'est son annonce de l'Évangile, son annonce de la bonne nouvelle à tous les païens. Et donc, non pas que, voilà, il complète l'œuvre de Christ, mais il ajoute un élément à l'œuvre de Christ qui est la diffusion de sa bonne nouvelle partout. Et donc, faut savoir que ce verset-là, il est compris différemment par différentes personnes, différentes religions, notamment les catholiques. Hein, il y a certains catholiques qui pensent que par nos souffrances, on peut amener à faire des choses toutes particulières en complément de ce qu'a fait le Christ. Mais là, il faut rester clair, l'œuvre de Christ est parfaite et il n'y a rien à ajouter à son œuvre de salut pour nous. Alors ensuite, on revient à une partie un peu démonstrative. Donc, que j'ai appelé « Vous avez tout pleinement en Christ ». Bon, simplement un focus. On revient de ce côté-là. Voilà. Donc là, Paul va opposer deux traditions. La tradition des hommes et la tradition de Christ. Les gens qui sont enracinés dans la tradition des hommes, les gens qui sont enracinés en Christ. Enracinés en Christ, on le voit avec les versets 6 et 7 qui sont très beaux pour moi, qui sont très, très forts. Ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous, construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en actions de grâce. On voit que, voilà, ce que Paul demande aux Colossiens, c'est cet ancrage en Christ. Alors je me suis posé la question, parce que je ne sais pas si ça vous a déjà posé question, mais je n'ai pas trouvé d'exemple où on est en quelqu'un. Et alors dans le Nouveau Testament, on a partout, on est en Christ. Et donc oui, Christ est un homme, mais est-ce qu'il y a des moments où on est en quelqu'un? Est-ce qu'il y a des moments où on est enraciné en quelqu'un? Est-ce qu'on est construit en quelqu'un? Est-ce qu'on vit en quelqu'un? Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre à quel point notre relation avec Christ n'est pas simplement une relation entre deux êtres. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait spécial et extraordinaire parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en communion, nous partageons en quelque sorte une forme de nature commune. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. L'autre tradition, c'est la tradition des hommes. Donc on en a déjà parlé au travers de cette hérésie éventuellement d'origine païenne. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde et non pas selon Christ, que l'on a au verset 8. Donc on voit que ce verset-là nous rappelle ça. Le verset 16, « Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. » Donc il y a vraiment... Voilà, il y a d'autres traditions, quelquefois qui ont une apparence de religion. On le voit dans le verset 18. « Ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges, au gré de leur vision. Ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair. » Donc on voit que voilà, ces traditions, et notamment quand on parle des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats, ça peut faire écho même chez nous, hein, avec nos fêtes, fêtes de Noël, fêtes de Pâques, quelquefois qui n'ont plus rien à voir avec l'origine, mais qui ont une apparence de tradition et une apparence de religion. Donc, voilà, dans ce passage, Paul va vraiment mettre en regard les deux et va montrer qu'il faut vraiment choisir, et on le voit dans le verset 17, « Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. » Donc il va revenir en disant, voilà, l'ancrage principal, c'est Christ, c'est être ancré en Christ et non pas être ancré dans les traditions humaines. Alors ensuite, par rapport à cette partie-là, mort et ressuscité avec le Christ, donc là, ce qui est particulier quand on lit le passage, et c'est pour ça que j'ai mis ces deux parties-là ensemble, on a « Si vous êtes mort avec le Christ » au verset 20, et au verset 1 du chapitre 3, « Si donc vous vous êtes réveillé avec le Christ, alors que justement, dans le passage précédent, au verset 12, on pouvait lire « Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. » Et donc, on voit qu'il a déjà parlé de cette mort et de cette résurrection, mais là, il va un peu dire « Oui, mais bon, ce n'est pas le tout de l'accepter, de le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc on voit que la mort en Christ, qui sont dans les versets du chapitre 2, des versets 20 à 23, on a une assez forte critique du légalisme, dans le verset 21, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». On a le fait que ce légalisme amène à une satisfaction de la chair, à une apparence de sagesse dans le verset 23. Donc on retrouve toujours ces notions de sagesse, de connaissance, tout le long du passage. Et dans le chapitre 3, en ce qui est intéressant, moi j'ai noté le « penser » du verset 2 du chapitre 3, « penser à ce qui est en haut ». Donc on n'est plus dans le respect d'une loi et d'une pratique de quelque chose, mais « penser ». Et c'est pour ça que je l'ai mis un peu en avant. On a aussi une vie cachée avec le Christ en Dieu. Alors ça peut paraître bizarre, mais qu'est-ce que c'est que cette vie cachée ? Je pense que notre vie, quand on est mort et ressuscité en Christ, alors naturellement on n'est pas vraiment mort au sens mortel, au sens de la mort des humains aujourd'hui, et on n'est pas ressuscité. Un peu la remarque de Nicodème qui ne comprenait pas la nouvelle naissance, on a un peu cette... Donc, tout cela est quelque chose qui est fait de façon un peu cachée, de même qu'on était avec Adam, on était lié avec Adam et on était condamné à la mort avec Adam. De même, avec Christ, on va mourir et ressusciter. Et cette vie cachée, je pense que c'est clair que c'est une vie, aujourd'hui, quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils ne voient pas tout ça, ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas que nous sommes morts et ressuscités. Et c'est pour ça que cette vie cachée, pour moi, elle est forte dans le verset 1 du chapitre 3. « Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite du Père. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » Donc, notre fonctionnement, c'est de voir et de se mettre sous l'éclairage de ce qui est en haut, de ce qui est en haut, et d'en déduire ce que, sur terre, on doit faire. C'est pour ça que dans mes schémas, là, j'avais mis dans les cieux, sur la terre. On a toujours un peu ces mouvements où on nous fait aller de l'un à l'autre. Alors, le passage suivant, l'homme ancien, l'homme nouveau. Donc, on voit le cheminement de l'apôtre Paul. On part de Dieu, on arrive à Jésus, on passe aux humains, la nouvelle naissance, maintenant on arrive à l'homme ancien, l'homme nouveau. On voit vraiment, c'est comme un cheminement. On arrive petit à petit à converger, à arriver vers l'objectif de l'apôtre Paul, qui va être de parler des conséquences sur la terre qui nous impactent. Donc dans le chapitre 3, l'homme ancien, l'homme nouveau. Alors, on voit très clairement, alors bon, c'est des choses que nous connaissons bien au niveau évangélique, c'est un peu les choses qui marquent un peu notre compréhension de la parole de Dieu. Donc il y a les choses qui marquent notre ancienne nature, donc j'ai repris dans le verset 7, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité, l'idolâtrie. Également d'autres éléments dans les comportements, la colère, l'animosité, la malfaisance, la calomnie, les paroles choquantes. Et pour l'homme nouveau, alors un premier élément sur son origine, c'est-à-dire qu'on ne tient plus compte, qu'on pourra le tenir compte éventuellement dans des pratiques ou dans des rituels de l'origine des gens, qu'ils soient païens, d'origine juive, toutes origines. L'homme nouveau est indépendant de son origine de départ. On a des caractéristiques, ne pas se mentir, se supporter, revêtir l'amour, tendresse, bonté, humilité, douceur et patience. Donc on voit aussi dans ce passage vraiment une convergence de tout le monde et un même pied d'égalité dans sa nouvelle nature. Il y a vraiment une libération complète par rapport aux origines. Alors on peut peut-être imaginer par rapport à des gens qui avaient une origine juive qui pouvaient dire, ah ben non, attendez, moi je suis un peu mieux parce que j'ai une origine juive, ou d'autres qui pouvaient dire, ah ben non, attendez, moi je ne suis pas juif, mais bon, voilà, j'ai telle ou telle chose, ou peut-être que je ne serai jamais aussi bien que tel autre. Non, il y a vraiment une rupture, et ce passage vraiment fait pas la synthèse, mais l'agglomérat de toutes les nouvelles créatures sur un même pied d'égalité. Et on arrive, donc petit à petit, à ce qui est pour moi une conclusion du message de la... donc du message propre à l'épître, hein, si je remets, voilà. On arrive petit à petit aux applications. Donc là, on est purement dans le terrestre, dans ce qu'on doit faire au jour le jour. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on a compris, qui s'ancre dans une connaissance, puisque Paul, pour arriver là, est reparti quasiment de Dieu. Hein, il a redéfini toutes les étapes, il a parlé beaucoup de la nature des uns et des autres, du message de l'Évangile, de la pleine nature divine de Jésus, notre pleine communion en Christ. Et il nous amène petit à petit à nous confronter à qu'est-ce qu'on doit faire, finalement. Et donc on arrive dans ces applications à un passage donc, qui fait écho également à un passage bien connu dans Éphésiens. Donc on va nous reparler des comportements au sein de la famille. Donc, comme d'habitude, on va parler du couple, on va parler de la famille, on va parler du rapport donc, du couple en tant que tel, de la famille avec les enfants. Donc on va reprendre des éléments qui ont été définis un peu plus haut par rapport à l'ancienne nature et la nouvelle nature. Qu'est-ce que ça implique dans notre vie aujourd'hui? On va avoir un lien avec tout ce qui concerne la relation maître-esclave. Alors, j'ai marqué que c'était une exhortation difficile à entendre aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on dit « esclave, restez esclave de votre maître, hein, servez-le bien », on ne se verrait pas affirmer ça aujourd'hui dans notre société par rapport à l'esclavage. Et je trouve que ce passage-là, il a une connotation toute particulière si on accepte l'idée qu'avec cette lettre, il y avait également la lettre à Philémon, donc qui traitait le problème de l'esclavage, et donc un cas tout à fait particulier. Donc il y a une cohérence avec ce qui va être écrit dans l'épître à Philémon. Bon, si ce n'est qu'en plus, à Philémon, Paul va l'appeler à se rappeler de la grâce qu'il a reçue du Seigneur pour avoir un comportement similaire vis-à-vis d'Onésime. Et également, donc on peut lire ce passage-là vis-à-vis du comportement qu'on doit avoir avec l'extérieur. Donc le verset 6, ou du moins 5 et 6, « Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Donc ça, c'est une parole très, très sage, mais... Voilà, parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, voilà, il faut toujours apporter à l'extérieur, aux gens qui ne sont pas de notre Église, qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas la même foi que nous, mais on doit leur apporter ces paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, et voilà, pour répondre à chacun. J'en arrive à la conclusion, ou quelques éléments de conclusion. Donc au début, quand j'ai commencé à regarder l'épître aux Colossiens, j'étais submergé par toutes les luttes contre les hérésies. Il y en avait des pages et des pages. Et finalement, je suis un peu revenu en arrière, un peu ce que je disais en introduction. Les hérésies qu'on peut voir chez les Colossiens, ce n'est pas une hérésie. C'est un ensemble de comportements, un ensemble d'idées hérétiques, mais qui ne rentrent pas dans une case. Et c'est pour ça que je l'ai relativement facilement associé à ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans nos églises ou dans nos communautés, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des gens qui ont des origines tout à fait diverses. Alors, suivant les églises, il y a plus ou moins de mélange hein, d'origine. Il y a des églises plus traditionnelles où tout le monde vient, entre guillemets, du même moule. Il y a des églises où c'est très, très mélangé. Et je me souviens, par exemple, au travers d'études bibliques, des fois, où quand vous parlez de l'Esprit-Saint, vous apercevez que vous avez 10 personnes en face de vous et vous avez 10 façons de voir l'Esprit-Saint complètement différentes. Et que, grosso modo, on a déjà pas mal d'hérésies qui sont présentées dans la salle, quoi. Et ça, c'est pour le côté hérésie. Donc, pour moi, ce qu'on voit dans l'Épître aux Colossiens, qui est un retour, un centrage sur le message de Christ, Christ est au centre de tout. Il est en relation avec Dieu, pleinement Dieu, il est en relation avec nous, nous sommes pleinement en lui, reste toujours d'actualité, quelles que soient les hérésies ou les difficultés, c'est ça le point, la tradition sur laquelle il faut s'ancrer pour nos églises, pour nos communautés. La deuxième partie, c'est la pratique des œuvres. Parce qu'il y a clairement pour moi, chez l'apôtre Paul, une volonté de parler de ce sujet-là. Il veut que les Colossiens progressent en connaissance, qu'ils fassent tout cela pour marcher d'une manière digne pour le Seigneur, et qu'ils portent des fruits, tout cela en portant des fruits. Et on voit très clairement que c'est pour moi la conclusion de cette partie de message, c'est de porter du fruit. Et donc ça, c'est important. Alors, ce n'est pas propre à l'épître aux Colossiens, la notion de fruit, on la retrouve dans Jacques, dans les épîtres de Jean, on voit que le comportement qui découle de notre foi est très important. Alors, est-ce que ce comportement était un peu remis en question par parce que Epaphras a dit à Paul, bon, ils n'arrêtent pas de se quereller, etc. Est-ce que c'était lié à ces tendances un peu d'hérésie, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est important que la pratique des œuvres et les comportements reflètent notre foi et notre ancrage en Christ. Le dernier point, c'était un peu lié à mon schéma, avec ces balancements, c'est qu'on voit souvent des belles théories, des belles pratiques, confrontées à des choses beaucoup plus concrètes. Oui, mais si vous êtes d'accord avec cette théorie, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? On voit un peu cette alternance, et ça, pour moi, ça me parle particulièrement, parce que souvent, en termes de connaissances bibliques ou de connaissances de la parole de Dieu, on a un certain niveau de connaissance, hein, il est tous différent, mais pour moi, il est toujours bien en avant sur qu'est-ce que l'on fait réellement pratiquement. Et donc, c'est un peu cette obligation de me dire, bon, finalement, est-ce que là, il faut que je continue à creuser plus la parole de Dieu, ou il faut que je me calme et puis que je mette plutôt en ordre ma vie et pratiquer des choses plus concrètes, parce que ça ne sert à rien d'avoir une connaissance infinie si, derrière, ça ne s'accompagne pas d'éléments concrets dans ma vie. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant dans cet épître. Voilà, je vous remercie de votre écoute.